Moi, je suis oriental. Je refuse totalement ce qui se
passe. Moi, j'ai essayé de vous remercier au passage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, peut-être que vous puissiez en trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole dans ce premier numéro de Parole aux auditeurs de l'année 2015. 7 ans après la mise en place des gouverneurs et gouvernements provinciaux, certains observateurs, notamment la plateforme Participation Populaire Quinoise, un regroupement politique de l'opposition réclame un audit sur la gestion de toutes les provinces de la RDC. Ils l'ont exprimé dans une lettre adressée au président de la République, Joseph Kabila. De son côté, Julien Paloukou, porte-parole du gouverneur, rassure que ses pairs sont déjà ouverts à toute enquête sur leur gestion. Alors, comment vous commentez cette actualité? Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien vous pouvez nous appeler au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Jennifer Zabongoda et Pierrot et Lamégie réalisent cette émission. Sylvain Matundu est à la mise en onde de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Et encore merci de votre fidélité à Radio Okapi. Luc Koulou de Kabamba à Kalemi nous dit ceci: qu'est-ce qui motive cette plateforme à réclamer cet audit concernant la décentralisation? Est-ce que la préparation de l'opération des découpages du côté administration sur les plans de l'économie, finance, politique est déjà mise sur pied afin que dans l'avenir qu'il n'y ait pas des histoires banales et douloureuses comme par le passé? Urbain Nyamusayo de Goma dit ceci: cette est le bienvenu, mais que les résultats de cette enquête soient accompagnés des actions disciplinaires et pénales contre tous ceux qui se sont appropriés le bien de l'État, car les assemblées provinciales ont failli à leurs attributions des contrôles. Inonsa Arma Kondoli de Kinshasa: cette initiative d'audit est bonne pour la bonne gestion de nos provinces. Toutefois, notre souhait est que les inspecteurs chargés de cet audit fassent preuve d'intégrité morale et que la justice agisse. Nous avons en ligne notre invité, Julien Paloukou, gouverneur de Nord-Kivu et porte-parole des gouverneurs de la République démocratique du Congo. Monsieur Julien Paloukou, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour à tous les auditeurs et meilleurs voeux à toute la population de la RDC ainsi qu'à tous les journalistes de la radio.
Alors, comment avez-vous apprécié ces plaidoyers de la plateforme Participation politique pour tous?
Oui, j'ai bien lu le message de cette plateforme qui réclame qu'il y ait un audit. Pour moi, je pense que c'est une porte qui est déjà ouverte parce que les lois qui nous régissent établissent les structures qui doivent auditer les provinces. Il y a la Cour des comptes, il y a l'Inspection générale de finances, il y a les assemblées provinciales. Donc pour moi, cette demande ne vient à rien ouvrir une porte parce que tous les gouverneurs, toutes les assemblées et l'ensemble de la République est consciente qu'une bonne gestion, une bonne gouvernance mérite effectivement que les comptes soient audités. Mais je crois que ce que je dois relever tout de suite, c'est que qu'il s'agisse de cette plateforme ou même les auditeurs, j'ai suivi Luc, Urbain et Innocent, on a une mauvaise lecture de la mise en place de la décentralisation au point où on rejette les responsabilités sur le gouverneur tant les choses ne marchent pas sur l'ensemble de la République, étant donné que la constitution qui nous a mis cette décentralisation a été adoptée par référendum dans un environnement de crise profonde, de chômage, de pauvreté, si bien que l'avènement des gouverneurs a suscité beaucoup d'espoir dans un océan de problèmes. Maintenant que ces problèmes n'ont pas trouvé de solution 7 ans après, les gens pensent que la faute revient au gouverneur. Et c'est la raison pour laquelle je me dis Il faut qu'on se mette ensemble pour voir quelle était la situation de départ lorsque les provinces ont été installées et quelle est la situation actuelle pour qu'on mesure les écarts. Et ce sont ces écarts qui permettront aux uns et aux autres de dire que rien n'a été fait au niveau des provinces.
Oui, mais le fait qu'on observe aujourd'hui le développement à double vitesse, en tout cas dans chacune de nos provinces, est-ce que cela ne serait-il pas lié directement à la mauvaise gestion de certaines provinces, par exemple?
Mais moi, je pense qu'il y a une confusion des rôles. Parce que comme votre émission est aussi pédagogique, la République est gérée par des institutions. Au niveau central, il n'y a pas d'institution. Le président est une institution, le parlement, le gouvernement, les cours des tribunaux. Et en province, il y a deux institutions. Il y a l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Et la Constitution a défini elle-même les compétences pour chacune de ces institutions. Je peux vous dire, par exemple, que l'article 204 de la Constitution stipule qu'il y a quatre ou cinq principales compétences des provinces. C'est l'éducation, c'est la santé, c'est l'agriculture, c'est le développement rural, c'est quelques travaux d'infrastructure au niveau de la voirie, au niveau des routes d'intérêt provincial. Mais on a l'impression que ça, il manque même de l'eau potable dans une ville, qui relève de la compétence de la régie des eaux. Quand il manque de l'électricité dans une ville, qui relève de la SNEL, lesquelles structures perçoivent des moyens chaque jour auprès de la population, on a tendance à croire que c'est encore le gouverneur qui n'a pas amené de l'électricité, qui n'a pas amené de l'eau à la population. Donc je crois que nous les Congolais, 10 ans après l'adoption de la Constitution par référendum, nous devons nous efforcer à connaître le contenu de notre Constitution pour qu'en jugeant les acteurs, nous puissions les juger sur base des compétences qui leur sont dévolues et non pas sur base de ce que nous nous pensons dans notre tête. Voilà ce que je peux répondre à ce sujet au niveau de ceux qui, en fait, donnent des responsabilités à ceux qui ne sont pas responsables de certains domaines tels que définis par la Constitution.
Oui, monsieur le gouverneur, il y a certaines provinces qui bénéficient quand même de financement de la coopération.
Non, là je dois tout de suite revenir sur un communiqué que j'ai sorti lorsque j'ai suivi cette plateforme qui avait dit que nous gérons les fonds de la coopération internationale. Là j'ai dit non, et alors non, parce que il n'y a aucun gouverneur, il n'y a aucune province qui est autorisée à signer des accords, ni bilatéraux, ni multilatéraux avec les partenaires. Il n'y a que le gouvernement central qui est habilité à travers le ministère de la coopération internationale à signer des accords internationaux. Les fonds qui arrivent en province sont des fonds directement gérés par les partenaires qui n'entrent jamais dans les comptes de province et pour lesquels aucun gouverneur n'a les moindres centimes de dollars qui dépensés. Donc je crois qu'il faut que les gens soient clairement édifiés à ce sujet. Il n'y a aucun fonds en provenance de l'intérieur, de l'extérieur qui tombe dans la caisse du gouverneur et qui est géré par lui. C'est vraiment de la confusion lorsque cette plateforme a filtré ce genre d'idées dans l'opinion pour chercher à opposer le gouverneur à la population, montrer que si les choses ne marchent pas, c'est parce que le gouverneur détourne tous les moyens qui sont mis à leur disposition.
Mais on a l'impression également, ça c'est l'impression qu'ont certains observateurs, que les assemblées provinciales aujourd'hui, au fait, n'ont pas tous les moyens politiques pour contrôler disons les gouvernements provinciaux, surtout que pour certains, en tout cas, ces assemblées sont instrumentalisées.
Oui, je vais revenir dans votre analyse. Si je me place votre hypothèse, là où les assemblées ont pu sanctionner le gouverneur, nous avons la province, par exemple, de l'Équateur, nous allons arriver au quatrième gouverneur avec l'élection de celui qui va remplacer notre collègue Kouagali qui est décédé. Nous avons au Kasaï occidental où on est au troisième gouverneur. Nous avons au sud de Kivu où on est au troisième gouverneur. Nous avons au Maniema où on est au deuxième gouverneur. Alors la question qu'on peut se poser et que tout le monde peut se poser, c'est savoir, est-ce que le changement de ce gouverneur à la tête des provinces que je viens de citer a été un facteur de développement dans ces provinces? Comme on peut aussi se dire, est-ce que là où on a maintenu le gouverneur à la tête de la province, est-ce qu'il y a eu développement? Alors, je crois qu'en analysant cette question, il faut que les gens sachent que les pièges pour la République se trouvent au niveau des moyens. Je peux vous dire que les chiffres que j'ai ramassés au niveau du ministère du Budget et des Finances, dès fin décembre 2014, toutes les provinces de la République démocratique du Congo reçoivent globalement 16,7 millions de dollars, toutes les 11 provinces. Donc si on fait une moyenne, c'est que chaque province reçoit en moyenne 1,5 millions de dollars par mois. Et c'est là, pour le fonctionnement de l'Assemblée provinciale, du gouvernement provincial et de tous les services provinciaux qui sont dans chaque province. Imaginez-vous une province comme l'Équateur, une province comme la province orientale, qui a la dimension de la France, elle reçoit 1,5 million de dollars pour son fonctionnement, pour ses investissements, pour son développement, même si le gouverneur est un génie. Que ferait-il avec 1 million de dollars pour une province à la dimension de la France, à la dimension 4 fois, 5 fois, 10 fois de la Belgique? C'est comme ça qu'il faut analyser la question de décentralisation en RDC et ne pas avoir des réactions épidermiques où globalement on jette la rantaine sur le gouverneur comme étant des grands détourneurs sans savoir les moyens dont il dispose pour piloter la politique de développement dans les provinces respectives.
081-890-6315 pour votre intervention en direct. Monsieur le gouverneur, nous vous gardons en ligne.
Parole aux auditeurs.
Merci de nous rejoindre. Notez que Parole aux auditeurs aborde la question sur la gestion de nos provinces. Et aujourd'hui, c'est après la mise en place, donc la mise en place des gouvernements provinciaux. Certains observateurs, notamment la plateforme Participation populaire pinoise, un regroupement politique de l'opposition, réclame donc un audit sur la gestion de toutes les provinces de l'RDC. Ils l'ont exprimé dans une lettre adressée au président de la République. Alors, qu'en dites-vous? Maître Adrien, vous êtes à Kananga. Bonjour. Maître Adrien, vous êtes avec nous, bonjour. Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Maître Adrien. Il est temps de découvrir encore quelques messages. Il y a Dieu merci à Lifaki de Kisangani, ainsi que à Simoué Josias Bin Mwanga de Beni. Mais il est temps de prendre Clovis qui est à Moine du tout. Clovis, bonjour.
Bonjour JR et bonjour à tous les amis de la radio Kati actuellement en Bouchemaille.
Voilà, vous avez la parole Clovis. Quel commentaire faites-vous par rapport à cette situation?
D'accord, merci JR. Vous savez que la décentralisation a été ajustée. Ce n'est pas quelque chose du hasard, c'est donc quelque chose qui relève de la Constitution. Donc, moi je pense peut-être qu'on doit seulement chercher comment décentraliser. Pourquoi? Parce que quand on doit décentraliser, on trouve qu'il y aura certaines décisions qui doivent être prises au niveau de la base. Pourquoi? Parce que la décentralisation, moi je trouve qu'elle a aussi vraiment ses avantages. Ses avantages sont lesquels? On donne aussi la loi à la base, on donne aussi une certaine décision où on va prendre aussi la décision au niveau de la base. Si aujourd'hui nous attendons seulement qu'on puisse décider au niveau de
Clovis,
ça va tarder.
Oui, d'abord, quel commentaire faites-vous par rapport à ces plaidoyers de cette plateforme?
Oui, moi je pense qu'on doit tout d'abord chercher à ce que la décentralisation doit tout d'abord complète et nette. Comment ça? Il faut qu'on par rapport au plaidoyer de cette plateforme, je pense que hier, je trouve que ce plaidoyer est aussi à appuyer. Et par rapport aussi à la rétrocession, je pense que il faut, quand même quand on doit rétrocéder les choses, ou l'argent, on doit faire un suivi. S'il n'y a pas un suivi, on ne sait pas là où cet argent part. Mais par rapport à la décentralisation et au plaidoyer de la plateforme, je pense que la décentralisation, c'est quelque chose qui a été d'abord consacré dans la Constitution. Mais pour le moment, je ne pense pas que on doit tout d'abord s'y intéresser. Je pense que on doit tout d'abord chercher à organiser et chercher tout d'abord à organiser, comme nous sommes déjà vers l'année électorale, on doit tout d'abord chercher à ce qui est prioritaire. Ce qui est prioritaire en ce moment, moi je pense que ce sont les élections. La décentralisation viendra avec le temps.
Oui, Clovis, donc nous retenons que pour vous, ces plaidoyers de la plateforme Participation populaire quinoise vont sont pesant d'or dans la mesure où la rétrocession qu'il y a eu, il faudrait quand même qu'il y ait un suivi pour savoir comment cela a été consommé localement. Ça sera une gestion opaque et personne ne se fera une idée parce que on doit cultiver quand même cette culture de réduction des comptes pour permettre à la population qui a donné mandat aux politiques de pouvoir se faire une idée sur les moyens qui étaient disponibles pour la manière dont ces moyens ont été gérés par les politiques. Clovis, merci beaucoup et on va prendre Maître Adrien qui est à Kananga. Maître Adrien, bonjour.
Oui, bonjour, cher Lungembo. Merci à tous les auditeurs de la radio Kaki.
Merci, nous apprécions et nous enregistrons. Quel commentaire faites-vous par rapport à cette situation?
Bon, je pense que l'idée de cette plateforme est bonne, mais à mon humble avis, je pense que le moment est mal choisi, parce que lorsque nous entrons dans le détail de ce qui est la pensée de la plateforme, il y a quand même hier certaines questions qui méritent bien d'être posées. Lorsque on dit il faut qu'il y ait l'audit, je ne sais pas qui va le faire, et puis ça sera conformément à quel texte, à quelle disposition légale, parce que lorsque nous lisons la Constitution, il y a des instances qui sont précises, bien chargées pour le faire. Donc nous avons, parce que c'est un cas qui concerne les gouverneurs des provinces, il y a les assemblées provinciales qui sont là, qui ont le mandat de la population de chaque province pour le faire. Lorsque je suis, donc j'ai fait mon petit commentaire, j'ai fait que, donc j'ai dit que le moment n'était pas bien indiqué. Pourquoi? Parce que l'audit, normalement, on le fait lorsque on est arrivé à la fin de son mandat. On ne peut pas interrompre quelqu'un pendant qu'il est encore dans l'exercice pour dire que non, non, arrêtez, j'ai fait un audit. Non, c'est vraiment illégal par rapport à leur pensée. Maintenant, par rapport à la question de la décentralisation, moi je pense que la question de la décentralisation a été donc votée par voie référendaire. Je ne pense pas que l'on puisse dire non, la priorité, comme mon ami Clovis l'a dit, que la priorité ce sont les élections. Non, il n'y a pas de priorité de priorité. Si c'est une question qui est constitutionnelle, évitons qu'on ne puisse pas traiter les uns et les autres que non, ils ont violé intentionnellement la Constitution.
Oui, maître Brière, oui, maître Brière, oui, quel est le constat que vous avez fait par rapport, donc c'est à après, autour de la gestion de nos provinces aujourd'hui, sur le plan financier?
Oui,
parce que vous êtes au conseil
financier, c'est vrai qu'il y a
oui, vous êtes
à boire, à manger et à vomir même, et donc par rapport à la gestion. Et moi, j'aime bien respecter les instances, hein, parce qu'il y a des instances chargées pour ça. S'il y a de la complaisance, attendons, lorsque le mandat des gestionnaires prendra fin, c'est à ce moment-là qu'on saura plus, parce que il n'y a pas longtemps, j'étais à Ilebo, j'ai fait des tournées Ilebo, Mweka, Luebo, mais ce que j'ai dû constater sur place, c'est un peu catastrophique, hein. Il y a des rétrocessions. Mais sur place là, il n'y a rien. Tous ces gens-là sont ici à Kananga. Hein, c'est là qu'ils perçoivent de l'argent des rétrocessions. Et sur le terrain, il n'y a rien. Il y avait même la population du Lébo qui s'était insurgée contre cette façon-là de faire. Donc moi, je pense que c'est vrai. Il y a des problèmes de gestion. Parce que là, je ne saurais pas vous dire que non, la gestion est saine ou bien elle est bonne. Mais il y a vraiment des choses. Mais est-ce c'est le moment vraiment de le faire? J'ai dit non. Et qui doit le faire? Là, nos amis de cette plateforme pourraient essayer de nous aider, parce que hormis l'Assemblée provinciale ou bien l'Assemblée nationale, il y a quand même la justice qui peut aussi se saisir d'office. S'il y a une plainte déposée par tout celui qui se sent intéressé par la situation. Donc, c'est ça un peu ma position hier.
Merci beaucoup, maître Adrien. Là, vous rejoignez Clovis de Moine et et qui parlait tout à l'heure de cette audit qui vaut réellement son présent d'or, dans la mesure où on ne sait pas comment la rétrocession est gérée localement en province. Et vous insistez pour qu'aujourd'hui, c'est vrai, au regard de la situation, au fait de la lenteur qu'accuse le développement du Lébo, par exemple, parce que vous avez cité cette cité, vous avez souhaité que la question sur la gestion de la rétrocession puisse être encore placée sur la table. Merci beaucoup, maître Adrien Dieudonné. Vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Gère.
Vous avez la parole, maître Dieudonné.
D'abord, merci de m'avoir donné l'occasion. Et donc là, je voudrais intervenir sur deux, trois petites choses. La première, c'est qu'une province, quand j'ai une province, c'est qu'on gère la chose publique. Et donc, on est soumis à ce qu'on appelle le devoir de redevabilité. Et donc, lorsque cette ONG demande qu'on fasse des audits, moi je m'en tiens vraiment pas au terme audit. Hein, je vois derrière l'audit un contrôle. Et lorsqu'on gère la chose publique, on doit être prêt à subir le contrôle. C'est aussi un exercice démocratique. Ça, c'est un. De deux, je suis votre invité qui déplore la quantité de rétrocession, 1,5 million et tout ça. Je me dis que le Congo, notre pays, c'est quand même un pays chrétien. Et donc, la Bible dit, lorsqu'on est fidèle en des petites choses, on le sera encore plus pour des grandes choses. Si on peut faire quelque chose avec 1,5 million, je crois que c'est déjà un bon départ. Mais quand on voit le coût de vie du gouverneur, hein, le mode de vie du gouverneur, on voit les villages qui poussent par tout ça. On voit tout ce qu'ils font, mais ça pose un problème. L'opinion doit se poser des questions. Voilà un peu le problème.
Oui, oui, j'ai donné, je crois que nous allons peut-être nous éviter de faire l'amalgame, parce que c'est vrai que ces gouverneurs, ce sont des mandataires de l'État, si je peux m'exprimer ainsi, ils ont un mandat politique. Aujourd'hui, ils ont un salaire. Je crois qu'ils ont droit aussi à une vie privée. Bon, voilà, donc on ne sait pas faire les calculs, comment ils gèrent leur propre salaire. Mais nous, là, nous restons dans la gestion de la province par rapport à la
rétrocession. Oui. Je reviens sur le devoir de rédévabilité.
Tout à fait.
Ils doivent accepter de se soumettre au contrôle. Parce que la chose qu'ils gèrent, c'est la chose publique. Elle appartient à tous les Congolais et le Congolais doit savoir ce qu'ils en font, même si c'est 1,5 million. OK?
Oui.
C'est bien clair. Et donc, c'est un exercice tout à fait démocratique. Pourquoi on veut de la démocratie? On veut pas du contrôle.
Oui, mais
on veut dire une chose et pas son contraire.
Oui, mais
c'est pas normal.
Oui, les porte-parole du gouverneur l'a dit, Dieudonné, que, en fait, personne n'a peur de contrôle parce qu'il y a des instances habilitées à les faire, notamment à la Cour des comptes et puis les inspecteurs des finances et, en dernier lieu, les assemblées provinciales. Et nous le savons tout au long de l'exercice parlementaire, l'assemblée provinciale, ça donne à cet exercice. Et c'est ce qui est fait. Et voilà, donc, et là où
vous êtes,
ça, peut-être vous pouvez nous éclairer.
Quel est le contrôle? On a connu le cas du Parlement national, l'Assemblée nationale, la DGI, tout ça. Enfin, ce qui se passe. Même si ce sont des élus qui ont respecté le mandat du peuple, il n'est pas interdit au mandant. Parce que le peuple, c'est le mandant, non?
Oui.
Ce sont des mandataires.
Oui.
Et donc, si j'ai continué que l'ONG fait partie du mandant, mais vous ne pouvez pas lui enlever le droit de demander des comptes. Même si le Parlement fait des comptes, même si la Cour des comptes fait des comptes. Mais qui a donné le mandat à ces gens?
C'est le peuple.
Et lorsque le peuple constate quelque chose de négatif, il ne peut pas poser de questions.
Tout à fait, c'est leur droit. Ouais. Merci beaucoup, Dieudonné. Mais là où vous êtes à Kinshasa, quel est le constat que vous avez fait sur la gestion, par exemple, de la chose publique?
C'est pas famille.
Voilà, merci beaucoup. Nous passons à Michel qui est à Mbujimayi. Michel, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous avez la parole, Michel.
Oui, justement, pour ce point précis, je pense que le rôle de l'exécutif, disons le rôle de l'Assemblée, c'est de contrôler l'exécutif. Alors, depuis ce mandat, rien n'a été fait. Alors maintenant, nous arrivons au terme de ce mandat. Maintenant, on dit, voilà, on va contrôler la gestion des gouverneurs. Ça ne signifie à rien. Moi, je pense qu'il faudrait tout d'abord qu'on arrive à la fin du mandat et que le gouvernement, les gouverneurs qui seront prochainement, et puis on va faire en sorte que...
Oui, Michel. Michel.
Oui.
Vous pensez que la fin du mandat des gouverneurs interviendra quand exactement?
Moi, je pense
parce que maintenant, on est déjà à la 7e année.
Comme tous ceux qui m'écoutent, nous attendons, parce que nous voyons, tantôt, il y a certaines dates, et tantôt, il y a ceci, mais quand ça viendra...
Alors, parce que ça n'arrive pas encore. Est-ce qu'on va s'empêcher de faire le contrôle par rapport à l'existant, par rapport à ce qui s'est fait? Il faut attendre seulement la fin? Pour commencer à contrôler.
Présentement, il reste encore combien de temps pour qu'on arrive aux élections?
Personne ne le sait parce qu'il n'y a pas encore un calendrier.
Oui, voilà. Alors, chaque gouverneur va procéder au contrôle du gouverneur. Ça sera comment? Vers quelle période? Pendant l'examen du budget ou pendant quelle période où on doit contrôler ce gouverneur, parce que c'est toute une commission qui doit être instituée.
Voilà, voilà. Nous vous rappelons que l'Assemblée provinciale a le mandat de légiférer, mais aussi de contrôler l'exécutif provincial, et il est fait tout au long de l'exercice parlementaire. Et nous l'avons fait, disons au mois de décembre, une émission par rapport à la gestion de nos assemblées provinciales sur le plan production législative et aussi contrôle. Vous avez suivi les auditeurs qui ont donné leur point de vue par rapport à ce qu'ils ont observé, ça et là. Voilà, donc merci beaucoup à Michel. Nous allons prendre le docteur Richard qui est à Kinshasa. Docteur Richard, bonjour.
Bonjour J.R., bonjour à l'invité, bonjour à tout le monde, bonne année à tout le monde aussi.
Voilà, vous avez la parole, docteur Richard.
Merci beaucoup. Je crois que le contrôle dans une activité, dans une entité, dans une république, doit être considéré comme une activité routière, une activité normale. On ne peut même pas écrire à monsieur le chef de l'État pour qu'il y ait contrôle. Ça, c'est honteux. Ça signifie que tout le monde était en sommeil. Alors là, ce n'est pas normal. Nous félicitons celui qui a écrit. C'est pour dire que nous savons fonctionner sans contrôler. C'est comme un chauffeur qui est à bord de sa voiture et il ne regarde pas le tableau de bord pour savoir si il y a du carburant ou pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a eu, selon M. le gouverneur qui est notre invité, plusieurs gouverneurs débarqués. Le socle du débarquement, c'était quoi? Les problèmes d'argent. Et puis, c'était quoi la suite? Il n'y avait pas de suite. C'est pourquoi je crois dans l'esprit de celui qui a demandé cet audit. Pour dire, nous sommes dans un pays sans sanction. Il n'y a pas de sanction. Vous débarquez quelque part parce que l'audit a dit ceci, l'audit est ça, et puis après tout le monde contemple pour dire, ils ont raté bon gros. Vous savez qu'on peut même auditer la présidence. On peut auditer le budget de la présidence, sauf la liste civile qui sont son salaire. Le reste peut être audité, et d'ailleurs doit être audité. Si on ne le fait pas, c'est comme un avion sans boussole, c'est comme un avion sans programme de vol, et on va faire quel bilan à la fin. Quel bilan?
Merci beaucoup, docteur Richard.
Merci
pour vous,
beaucoup.
Pour vous, l'audit doit demeurer une culture, en tout cas, et il faudrait que cela ne puisse pas être fait à deux vitesses. Il n'y a pas d'institution privilégiée qui ne doit pas subir des audits. Je crois que tout le monde, selon les dispositions de la Constitution, on doit passer à l'audit pour permettre à ce que la population puisse se faire une idée par rapport à la gestion de la chose publique. Et un auditeur bien donné, qui a parlé même des devoirs de rédévabilité, d'autant plus qu'on se retrouve devant la population qui a besoin que leur mandataire puisse réellement leur rendre compte. Merci beaucoup, Dr. Richard. 081-890-7315 pour votre intervention en direct.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Parole aux auditeurs.
Merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Nous entamons la deuxième demi-heure de cette émission avec vous, Julien Paloukou, porte-parole des gouverneurs de la République démocratique du Congo. Vous êtes avec nous en ligne.
Oui, je suis en ligne, c'est hier.
Alors, vous avez suivi Diédoné de Kinshasa, Maître Adrien de Kananga, Clovis de Moineditou, ainsi que Michel de Mbujimayi et d'autres, donc Dr. Richard de Kinshasa. Alors, la tendance se dégage du côté de la rétrocession, la gestion de la rétrocession, qui pouvait quand même être un élément fort pour aider les provinces à réaliser des projets de développement. Alors, qu'en dites-vous, Monsieur le Gouverneur?
Oui, M. Gilles, je voudrais d'abord remercier la radio Capi qui donne une tribune à l'ensemble de la nation congolaise de suivre la gestion des provinces. La première chose que je voudrais dire, c'est que les provinces n'évoluent pas en vase clos. Ce ne sont pas des États pour qu'ils soient jugés séparément de l'ensemble de l'État congolais. Il faut d'abord que les gens se mettent ça en tête. La deuxième chose, le devoir de redevabilité est un devoir qui est rempli par les provinces. Je ne veux pas que les gens pensent qu'il n'y a pas de contrôle au niveau des provinces. Je tiens à dire à toute l'opinion que chaque année,
les agents de la Cour des comptes font le tour de toutes les provinces pour auditer la gestion des provinces et les rapports sont à la Cour des comptes. Chaque année, les assemblées provinciales interpellent les ministres provinciaux, les gouverneurs des provinces sur la manière de devoir gérer leurs provinces. Chaque année, les provinces reçoivent les rapports d'exécution du budget de l'année passée. Ce sont des outils de contrôle. Dans la mémoire collective, il ne faut pas que les gens confondent contrôle et sanction. Lorsqu'on parle de contrôle en termes législatifs, en termes parlementaires, ça veut dire question orale avec débat ou sans débat, question écrite, interpellation, motion. Mais on a l'impression que dans la mémoire de la population congolaise, les mots contrôle signifient sanction. On n'a pas vu un gouverneur aux arrêts, on n'a pas vu un ministre en prison. Je pense que c'est ça le contrôle. Le contrôle, c'est de surveiller la manière dont la gestion a été faite par chaque province, par chaque gouverneur, par chaque ministre provincial, pour que, à la fin d'un budget, on adopte finalement les rapports d'exécution du budget. Donc il faut que les gens, tous les auditeurs là, et l'ensemble de la population congolaise, sachent que, à l'intérieur de toutes les provinces, il y a contrôle. Chaque année, par la Cour des comptes et par les assemblées provinciales, et les rapports existent, ce n'est pas à cacher. C'est pourquoi j'ai dit au début que nous n'avons pas à craindre un audit, parce que le texte prévoit déjà ce contrôle-là par la Cour des comptes, par l'Inspection générale des finances et par les assemblées provinciales.
Voilà. Alors, nous avons la question sur la rétrocession, parce que là, plusieurs auditeurs ont insisté sur la question. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai, en tant que porte-parole du gouverneur, comment ça s'est fait vraiment, concrètement, sur le terrain?
Oui, ce qui est vrai, c'est que la Constitution, je crois, son article 175, a clairement dit que, n'a pas même évoqué le thème de rétrocession. Elle a parlé de la retenue à la source de 40%. C'est-à-dire, une province comme le Nord Kivu, qui produit autour de 10 à 15 millions de dollars, retiendrait autour de 4 millions de dollars automatiquement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque on a évalué la mise en œuvre de cette disposition constitutionnelle, on a trouvé qu'il y aurait uniquement 4-3 provinces qui allaient fonctionner. C'est Kinshasa, c'est le Katanga et c'est le Bas-Congo. Parce que Kinshasa, le Katanga et le Bas-Congo produisent à peu près 85% des recettes de l'ensemble de la République. Je prends une province comme le Bandundu. Le Bandundu produit par mois, en termes de recettes du pouvoir central, 140 000 dollars. Donc, si on devait lui prendre les 40%, c'est que les Bandundu auraient 40% de 140 000 dollars, ce qui ne lui permet même pas d'acheter du papier pour le gouvernement provincial. Voilà pourquoi on a adopté un mode de solidarité nationale où on a convenu d'une rétrocession à allouer aux provinces selon la démographie, selon la participation, la contribution à la caisse de l'État, pour que au niveau national, chaque province reçoive plus ou moins quelque chose. Le tableau de la fin de l'année 2014 indique que l'ensemble des rétrocessions données aux provinces se chiffre autour de 16 millions de dollars. Et lorsque ça arrive en province, il y a une quantité qui va directement au niveau des entités territoriales décentralisées, qui sont la ville, la commune, les secteurs et les chefferies. Mais lorsqu'on fait une évaluation, effectivement, de la répartition de ces petits montants qui sont alloués aux entités, on se rend compte qu'une entité territoriale centralisée peut recevoir, par exemple, par mois, 1 000 dollars, 1 500 dollars ou 3 000 dollars. Alors, quel type de développement cette entité pourrait faire avec 1 000 dollars? C'est-à-dire, avec ou sans le gouverneur actuel, avec ou sans le chef des entités actuelles, si les conditions de notre budget restent les mêmes, on changera de gouverneur, on changera de maire, on changera de l'Assemblée provinciale, et ça ne sera pas la condition pour le développement de la République. Alors, il faut que les gens y aillent sans passion, mais en mettant carte sur table pour dire quel est le problème fondamental de la République. Et pour moi, les pièges de la République, c'est son propre budget. Un budget de 8 milliards, un budget de 9 milliards, dont on a 5 milliards à ressources propres, ne peut pas être un facteur de développement de la RDC.
Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Nous vous gardons encore en ligne cette question d'interéquation. C'est là pour sauver l'image de certaines provinces qui se trouvent en difficulté, comme vous l'avez évoqué d'ailleurs, le cas de la province de Bandundu. Nous avons l'honorable PACA député provincial de Bandundu qui nous a rejoint d'ailleurs dans ce débat. Il pourrait émettre quand même son point de vue. Honorable PACA, bonjour. Honorable PACA, vous êtes avec nous? On a des petits soucis avec la ligne de l'honorable PACA. On prend plutôt Omar qui est à Kinshasa. Omar, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à monsieur le gouverneur.
Vous avez la parole, Omar.
Merci beaucoup JR. En vous souhaitant mes meilleurs voeux, je vous dis merci du verbe. Les thèmes sont intéressants et nous vous en félicitons.
Merci.
Il faudra se rallier à la problématique de l'émission. Moi, je dirais que la plateforme qui a soulevé cette question avait les bien raisons. Et c'est là pour deux fondements. Premièrement, sur le plan juridique, nul ne peut ignorer que la Constitution et la loi portant principes relatifs à l'administration des provinces obligent à ce que les provinces soient contrôlées quant à leur gestion. Ce travail doit être fait politiquement par le Parlement provincial, juridiquement par les cours des tribunaux, techniquement par la Cour des comptes et l'inspection des finances. Donc, je rappelle à la plateforme que le mécanisme de contrôle existe, mais seulement il n'est pas efficace par rapport à beaucoup de raisons d'ordre politique, affectif et que sais-je. Deuxièmement, sur le plan sociologique, la plateforme a raison parce que il suffit aujourd'hui hier de faire un état de lieu de ce contrôle des gestions internes des provinces, vous allez vous rendre compte que la gestion est mitigée. Certes, il y a des points qu'il faudra apprécier par rapport à ce que les provinces font des efforts, mais il y a aussi beaucoup de points que nous décrions. Je prends le cas de la ville de Kinshasa. Donc, je pose la question sur l'impact de cette rétrocession sur la vie des Kinois. Premièrement, combien d'agents de la tête des villes de Kinshasa sont bien payés? Et deux, combien de vrais problèmes sociaux des Kinshasa sont traités? Je prends les cas des inondations, des érosions, la construction des hôpitaux, des écoles, et la mise en œuvre de la sécurité en accordant aux policiers provinciaux les voitures, ceci, cela. Donc, les vrais problèmes ne sont pas traités. Et voilà pourquoi moi je pense que l'ONG a raison. Il faudra sensibiliser et interpeller ce qu'ils doivent faire. Il s'agit donc d'un bilan hier et le bilan est apparemment négatif. Pourquoi? Premièrement, c'est la complaisance dans les contrôles. Le gouvernement l'a reconnu, nous tous nous le reconnaissons. Le contrôle est légalement prévu, mais sa mise en œuvre pose problème. Pourquoi? Parce que ceux qui doivent contrôler sont complaisants. Les deux, c'est la mauvaise foi de ceux qui dirigent. La rétrocession, oui, il y a aussi des erreurs de la part de l'autorité centrale, mais le peu que vous gagnez, qu'est-ce que vous en faites pour la population? Et Détroit, il y a manque de sanctions. Le gouverneur a dit que le contrôle n'a pas pour but la sanction. Mais lorsqu'on contrôle, c'est que le bilan est positif, on vous félicite. Mais lorsqu'on contrôle, le bilan est négatif, on vous sanctionne. C'est juridique, monsieur le gouverneur. Il faudra donc sanctionner ceux qui gèrent mal. Si vous le faites bien, certains de vos collègues les font mal et ils doivent être sanctionnés. Voilà pourquoi je voudrais juger pour les recommandations, monsieur Juillet.
Mais allez-y.
La décentralisation exige pour sa mise en œuvre un respect de la légalité des sectes. Je voudrais dire là, il faudra que le contrôle de la légalité des actes des gouverneurs soit renforcé par ceux qui doivent le faire. Voilà pourquoi nous interpellons la conscience des députés provinciaux qui ont oublié leur mission, qui se réveillent et qui fassent pour l'intérêt de la population. Les parlements provinciaux, les cours et tribunaux, ainsi que l'inspection des finances. Et deuxièmement, pour finir, nous interpellons la bonne foi de nos gouverneurs. Ils sont là, c'est nous qui les avons mis en place. Il faudra que le peu qui vous est remis en termes de rétrocession soit géré pour le bonheur du peuple. Voilà mon avis hier, ce que je vous l'ai dit par rapport à la gestion interne des provinces.
Merci beaucoup, Omar. Honorable Mpaka, député provincial, nous a rejoint finalement. Honorable, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, avec 140 000 dollars comme recette au niveau de Bandundu, la rétrocession certainement pose problème. On a suivi les porte-parole des gouverneurs. Alors, comment vous arrivez-vous personnellement à gérer la province avec une telle recette? Et aussi, est-ce que cela a vraiment un impact sur le développement de la ville de Bandundu? Ou par exemple, la province là, dans son ensemble?
Oui, j'ai dit que c'est vraiment impossible avec ce montant-là pour pouvoir songer au développement de Bandundu. Ce que nous devons savoir, c'est que il y a dysfonctionnement des institutions dans ce pays. Celui qui envoie ses 140 000 dollars, 140 millions, quelque chose comme ça, dollars pour la grande province comme celle de Bandundu, et tu crois qu'on peut faire quelque chose avec ce montant-là? Donc, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il faut chercher, l'argent est là, il faut chercher à organiser le mécanisme de contrôle. Il y a le contrôle, il y a des institutions ici, il y a des institutions qui sont là pour faire le contrôle, mais on fait ce contrôle en ordre dispersé. Vous avez le contrôle, ou soit l'audit interne. Ce contrôle, quand on le fait, la solution, la finalité n'est pas connue, vous avez le contrôle extérieur qui doit être fait par l'inspection générale de finances. Mais cette inspection est actuellement annexée à la présidente de la République. Donc la présidente de la République est jugée partie. on gère, on prend ceux qui sont.
Honorable Paca, au niveau de l'Assemblée provinciale, là où vous êtes, combien de contrôles avez-vous fait pour, en fait, vous faire une idée sur la gestion de la province? Prenons juste l'exercice parlementaire 2014.
Vous ne pouvez pas, dans un duel de poules, vous ne pouvez pas. Dans un duel de cancrenat, vous ne pouvez pas prendre le poule pour être arbitre. Vous comprenez, je sais. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, l'arbitre. Oui, je crois que les
duel de cancrenat, oui. Vous ne pouvez pas demander au coq d'être l'arbitre.
Oui.
Moi, j'avais une question orale à l'Assemblée provinciale de Bandundu.
Oui.
Cette question était neutralisée.
Oui.
Par mes collègues députés. Donc, c'est pour vous dire que il faut qu'on ouvre l'œil et le bon, parce que nous avions connu, par exemple, dans le temps, j'étais dans le Kouilou, j'étais au service de contribution, mais on est venu faire le contrôle. On avait arrêté et le conseil de district, et l'ordonnateur délégué, et le comptable, et le mandataire. Mais il n'y a pas de sanction. Pourquoi? Les gens détournent, on ne fait rien.
Merci beaucoup, honorable Paca, vous êtes député provincial de Bandundu. Pour vous, en tout cas, les détournements des publics, la chose publique est réelle. Il faut vraiment sanctionner.
À ciel ouvert.
Il faut des sanctions.
Détournement à ciel ouvert.
Et il faut vraiment un contrôle sérieux. Merci beaucoup, honorable. Maître Mavinga, vous êtes à Matadi. Bonjour.
Bonjour J.R., bonjour et meilleurs voeux à tous les auditeurs de la radio Kabi.
Voilà, nous apprécions et enregistrons cela. Quel est votre point de vue, Maître Mavinga?
Comme j'avais dit sur la page Facebook, ce qui est vrai, les contrôles parlementaires et de mise, c'est quelque chose qui a été consacré dans la loi. Et l'organe majeur ou principal de procéder au contrôle, c'est l'Assemblée provinciale. Donc, il faut que vraiment les députés comprennent la mission pour laquelle ils ont été élus. C'est-à-dire contrôler les pouvoirs exécutifs provinciaux du pays, il ne faudrait pas qu'ils soient là parce qu'ils avaient reçu, ils avaient gagné par le fait qu'ils étaient dans des partis politiques. Ils doivent comprendre qu'en dehors de la mission de voter les élus provinciaux, ils ont une autre mission de pouvoir contrôler l'exécutif provincial. Nous, au Bas-Congo, on n'a jamais vu un ministre provincial être interpellé. Or, c'est parmi les procédures au travers lesquelles l'Assemblée procède pour contrôler les membres du gouvernement provincial. C'est-à-dire, lorsqu'il se rend compte qu'il y a un membre du gouvernement provincial qui ne sait pas bien travailler, on l'interpelle pour contrôler ses actions. Mais malheureusement, les députés, ils sont en train de faire autre chose. Ils sont en train de faire des choses par rapport à leur partisan. Lorsqu'il y a une motion de censure contre une motion de bien contre un ministre, les députés provinciaux, ils négocient, ils sont facilement pris par l'argent, par la corruption, et ils laissent les contrôles tomber dans une sorte de marée noire. Donc malheureusement, nous ne voyons pas les bons contrôles de la part de l'Assemblée provinciale, qui est l'organe chargé de contrôler et le gouvernement de provincial par rapport à son action annuelle, par rapport à son budget, et les ministres provinciaux par rapport à leurs actions. Nous d'ailleurs, au Bas-Congo, nous ne connaissons même pas vraiment les ministres. Donc, quand on n'est pas du ministre des Finances, il n'est pas très bien connu. Et aussi, les plénières de l'Assemblée provinciale ne sont même pas médiatisées. Donc, on ne sait pas se rendre compte s'ils sont allés bien travailler ou pas. Malheureusement, c'est hier. Vous voyez un peu. Donc, ce qu'on m'a demandé aux députés provinciaux de la province du Bas-Congo, de faire leur travail, parce que cela leur a été dévolu par la Constitution de pouvoir contrôler les ministres provinciaux et même les députés provinciaux en vue de trouver une solution différente que celle qui pourrait se poser au niveau de la province du Bas-Congo.
Voilà, ça renvoie à un débat quand même autour de cet exercice auquel s'étaient livrés d'un côté les gouverneurs et de l'autre le gouvernement central. Il y a une année, je crois, si ma mémoire est très 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 bonne, que le ministère du budget avait même proposé un plan de développement de nos provinces, qu'on a appelé le plan de redressement. Alors où en est-on? Monsieur le gouverneur Julien Paloukou, vous êtes avec nous, vous avez suivi quand même, il y a pas mal d'appréhension, d'inquiétude autour de la gestion. Il y a même le député provincial de Bandundu qui nous a rejoint dans les débats pour mettre un point de vue, pour signaler que voilà, les détournements sont réels. Et pourtant, si on doit canaliser toutes ces recettes, ça pourrait quand même faire une bonne affaire pour le gouvernement. La province. Alors aujourd'hui, où en est-on avec le plan signé par les gouverneurs auprès du ministère du budget et du gouvernement central?
Oui, je gère avec tous les auditeurs qui me suivent en ce moment, et tous les participants à cette émission. Je n'ai pas nié qu'il y ait des problèmes dans les provinces de gestion. Donc, toute institution a souvent des problèmes. Je ne peux pas dire que toutes les 11 provinces sont très bien gérées, il n'y a pas un seul sou qui passe à côté. Ça, je ne l'ai pas dit. Et c'est pourquoi je dis que le contrôle tel que demandé, ça doit être fait pour qu'on se rassure que l'argent qui est collecté auprès des contribuables est en train de servir. Mais ce que je dois dire avant de répondre à votre question, c'est que la décentralisation dans notre pays est trop jeune. C'est la première fois que les gens voient des gouverneurs élus, c'est la première fois que les gens voient des ministres provinciaux, c'est la première fois que les gens voient la gestion décentralisée, et c'est tout à fait normal qu'au début de la législature en 2006, les attentes étaient nombreuses. Tout le monde pensait qu'en installation de nouvelles institutions, eh bien, toute la misère, toute la pauvreté, tout le chômage, tous ces maux qui rongent la société vont être évacués parce que seulement on a élu les gens. Je crois qu'il faudrait que la population congolaise, la classe politique congolaise, puisse s'arrêter à un moment donné pour évaluer le niveau de la mise en œuvre de la décentralisation pour dire est-ce que le chemin que nous avons adopté par référendum est le meilleur. Et moi j'ai une réponse par rapport à ça, mais c'est pas l'émission aujourd'hui. Alors, par rapport au plan, nous avons par exemple, à la suite de la conférence de gouverneur à Kananga, en mars 2013, élaborer un protocole d'accord qui définissait la manière dont nous devrions consommer, par exemple, des budgets d'investissement. Mmh. Parce que pour votre mémoire, et pour la mémoire collective, depuis 2007 jusqu'aujourd'hui, les fonds qui sont transférés aux provinces sont les fonds de fonctionnement des institutions provinciales et non pas les fonds d'investissement. La rubrique investissement, la rubrique rémunération n'est pas gérée par les provinces, n'est pas gérée par les gouvernements provinciaux. Et à Kananga, nous nous sommes dit, nous devons nous arrêter pour que désormais, le budget d'investissement tel que prévu par les lois de finances, tel que prévu par les budgets votés par l'Assemblée nationale, soit géré directement par les gouvernements provinciaux. Mais effectivement, lorsqu'on a évalué en 2014, ça n'a pas été fait tel que nous l'avons prévu. Donc moi je crois que ce n'est pas que le gouvernement central a le fait de sa bonne foi, mais c'est à la suite de l'exiguïté de son budget. Imaginez-vous, pour ceux qui ne le savent pas, les recettes générales de la République sont de l'ordre de 300 millions de dollars le mois. Si on les multiplie par 12, nous sommes à 4 milliards 800 toute l'année. C'est ça les recettes de la République. Alors donc, les gens risquent de croire que les pays devraient faire davantage, les gouvernements centrales, les gouvernements provinciaux devraient faire davantage, alors que dans la gibecière même de l'État, ce qui y est contenu n'est pas à même de résoudre les problèmes de la population congolaise, si bien que notre budget, au lieu d'attaquer les problèmes de développement, apparaît simplement comme un budget de fonctionnement de la survie des institutions. C'est un budget qui sert à payer les députés nationaux, les députés provinciaux, le gouverneur des provinces, les ministres provinciaux et toute l'administration de la République, l'armée, la police, les services et tous les personnels des cours de tribunaux. Donc si on est objectif et honnête, on doit dire que notre budget, c'est un budget de fonctionnement et c'est pourquoi moi j'ai toujours soutenu qu'on doit passer à côté de ces débats pour dire est-ce que les provinces sont bien gérées ou mal gérées. Est-ce que la République est bien gérée ou mal gérée? On doit passer de ce débat vers un autre pour dire comment devons-nous passer d'un budget de 8 milliards à un budget de 20, de 30 milliards à l'instar de l'Angola qui est connu il y a 10 ans, mais qui aujourd'hui est entre 60 et 100 milliards du budget national. C'est là où nous devons amener les débats. Au lieu de nous discuter sur les miettes qui ne vont nous amener à aucun développement, même par les changements des personnes.
Voilà. Voilà, monsieur le gouverneur, compte tenu de l'exécuté de ce budget dont vous parlez, alors nous imaginons que l'exécution du plan d'investissement des provinces paraît quand même utopique. Hein. Pour l'instant, c'est anachronique.
Oui, moi je crois que c'est utopique parce que lorsque vous allez concevoir un plan de redressement sans moyen pour alimenter les activités à l'intérieur de ce plan, eh bien ça sera vain. Et voilà pourquoi je me dis, si la classe politique est sincère envers elle-même, et je l'ai dit dans un atelier lorsque le Palou m'a invité pour faire une présentation sur la mise en œuvre de la décentralisation, j'ai dit que la classe politique doit s'arrêter un moment et évaluer la mise en œuvre de la décentralisation et faire des choix si on doit continuer ou pas. Parce que dans ce pays, lorsqu'on parle de la révision constitutionnelle, les gens ont toujours tendance à croire que c'est l'article 220 dont on veut parler. Mais pour moi, je crois qu'il y a beaucoup de dispositions constitutionnelles qui ont suscité des espoirs de la part de la population congolaise, mais qui aujourd'hui, à l'époque, on estime que c'est des dispositions qui doivent carrément sauter de la constitution pour qu'on élabore une constitution qui est adaptée aux réalités congolaises au lieu de faire les copier-coller de la constitution belge, de la constitution française, de la constitution américaine. On fait un modèle juxtaposé, un modèle mixte, et puis un modèle hybride qu'on colle à la République démocratique du Congo, et qui finalement aujourd'hui ne nous amène pas le développement tel que souhaité. C'est cela ce que nous devons faire en tant que classe politique, au lieu de commencer à établir les responsabilités pour dire c'est celui-ci qui est responsable de tel, c'est celui-là qui fait que le développement n'arrive pas, alors que le problème est ailleurs.
Voilà, le problème est ailleurs, Gabriel Christian Itakikwit, Gabriel Kindou. On va terminer avec vous et puis on reviendra à notre invité pour conclure. Gabriel, vous êtes à Kindou, bonjour.
Bonjour, Gérard. Bonjour à l'invité, monsieur le gouverneur du Nord-Kivu. Je suis justement intéressé de ce débat et je voudrais aussi apporter.
Oui, allez-y rapidement parce qu'on a pris assez de temps.
Oui, oui, l'enjeu qui a indiqué cette idée a pensé une très bonne idée. Parce que la gestion des provinces telles qu'elle s'est faite, elle est vraiment catastrophique. Le gouverneur s'appelle plus sur la rétrocession, mais. Est-ce qu'on peut réfléchir un peu sur la gestion des régies financières provinces? Comment ces régies sont gérées? Comment les ressources provinciales sont affectées? Moi, je suis au Maniema. Je suis dans une province orifère, donc, minière, je vais dire. Il y a 11%, par exemple, des recettes de l'or, pour ça qui sont réservées à la province. Mais où partent ces recettes? C'est dans la poche du gouverneur. Et donc, le gouverneur, je sais qu'il est en train de...
Oui, je ne sais pas, Gabriel, si vous avez des preuves par rapport à ça. Bon, dans la poche, mais peut-être que ça se volatilise, hein, c'est le mieux. C'est le terme qu'il faut utiliser.
C'est connu de tous, peut-être qu'on n'a pas le moyen maintenant pour...
Voilà, et nous ne sommes pas la justice pour... Oui.
Donc, il est en train de défendre le système. C'est le système qui est au sommet jusqu'à la base. Donc,
mais je crois que jusque-là, les propos du gouverneur n'ont pas ce caractère de défense.
Les autres qui vont passer.
Oui. Merci beaucoup, Gabi. Christian, vous êtes à Kikwit. Bonjour.
Bonjour à tous.
Voilà, vous êtes le dernier auditeur de cette première émission de l'année 2015. Pardon. Quel est votre point de vue, Christian?
Eh bien, juste, j'ai des petites préoccupations.
Oui, rapidement.
Je voulais m'intéresser juste. Vraiment, la plate bande qui a été formée, vraiment, c'est, nous louons ça. Vraiment, ça nous donne aussi des idées et sur... Ça donne aussi l'élan pour ce que nous pourrons progresser dans notre République démocratique du Congo, qui est une vaste pays. Une vaste pays, j'allais dire. Alors, juste, j'ai une...
Voilà, désolé, on a des petits soucis avec la ligne de Christian, qui nous a appelé d'équipe. On va accorder la parole à notre invité pour conclusion, mais notez que vous suivez donc parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen 081-890-6315 pour vos appels et aussi des messages si vous voulez. Envoyez-nous à pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Voilà, monsieur le gouverneur, on va terminer par vous et vous avez suivi l'avant-dernier auditeur qui a évoqué la question sur la régie financière locale. C'est vrai, il y a des GERCA ici, des GELOU par là, des GEPO, il y a pas mal de régies financières à travers le pays, mais la gestion, en tout cas, selon cet auditeur, n'est pas très fluide, quoi.
Oui, merci. Je voudrais dire que l'ONG Participation Populaire Chinoise, elle est porte-parole en fait de l'ensemble des populations congolaises qui ne maîtrisent pas les textes qui régissent en fait l'architecture administrative de la RDC. Lorsque vous voyez aujourd'hui le gouverneur dans chacune des provinces, si on est objectif,
on doit trouver qu'il y a des actions qui ont été menées, ça et là. Il y a des écoles construites, il y a des routes, il y a des hôpitaux, mais c'est insuffisant par rapport aux attentes. Les directeurs qui ont été créés ont pour rôle de pouvoir se subvenir aux moyens insuffisants qui viennent de la rétrocession. Imaginez-vous, par exemple, on donne, comme je l'ai dit, 1,5 million par mois à une province. S'il n'y a pas une autre part qui vient de la collecte des impôts au niveau local, eh bien, on ne sera pas survivre avec les 1,5 million là, et l'Assemblée provinciale, et le gouvernement, et le développement attendu par la population. Voilà pourquoi ces structures ont été créées. Je donne l'exemple du Nord Kivu. La première fois en 2014, la direction provinciale des recettes a pu mobiliser 1 million de dollars par mois. C'est la première fois depuis 2007. Et imaginez-vous, 1 kilomètre de route asphaltée équivaut à peu près 1 million de dollars. Donc si vous gagnez 1 million de dollars le mois, ça veut dire qu'il faut mettre tous les millions dans les kilomètres et rien ne va plus fonctionner dans l'ensemble de la province. C'est comme ça qu'il faut comprendre la gestion des provinces. Mais lorsqu'on aborde ces questions sans évoquer la question des moyens, on risque d'être à côté et, comme je l'ai dit, de faire des condamnations sur des gens qui ne sont pas responsables. Les contrôles, nous les voulons bien. L'audit, nous les voulons bien pour que les gens se rendent compte qu'il n'y a rien en province, qui s'occupe de l'attention des gens, les gens qui croient que le gouverneur est au ciel et la population est restée en enfer. Ce n'est pas le cas. Lorsque les gens remplaceront le gouverneur ou lorsqu'ils le remplacent, ils se rendent compte effectivement qu'il n'y a rien. C'est parce que les gens sont dans une pauvreté totale, dans un chômage total, que l'on croit que les gouverneurs sont déjà arrivés à, je ne sais pas, au ciel, qu'ils sont restés en enfer. Je vois par exemple le Nord Kivu, je vois la province orientale, je vois l'Équateur, je vois les Bandundu, je vois l'ensemble des problèmes que nous avons sur la terre, eh bien, la population doit savoir qu'il y a des efforts qui sont faits, mais aussi il y a des insuffisances que nous reconnaissons. Et là où il y a des insuffisances, on doit sanctionner. Je n'ai pas dit que là où on constate une mauvaise gestion, une gestion criante, on doit laisser les choses aller comme ça parce que c'est le gouverneur ou c'est un ministre provincial. Là où il y a des problèmes, on doit sanctionner, mais de façon objective. Ce que j'évite, c'est que la sanction se fasse avec la passion. Parce que tout simplement, on croit qu'on a beaucoup d'argent, il faut sanctionner pour que les autres aussi viennent, parce que les autres ont trop mangé. Les autres genres de paroles qu'on suit toujours dans les débats, ça et là, à travers la République.
Julien Paloukou, porte-parole du gouverneur et gouverneur du Nord Kivu, merci d'avoir été de nôtre et à très bientôt. Voilà, c'est pas ici que nous mettons un terme à ces programmes. Nous allons le retrouver demain dans un autre numéro. Notez que l'article 97 de la Constitution dispose que les fonctions des membres du gouvernement sont incompatibles avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Pourtant, les gouvernements de la République publiés au début du mois de décembre dernier comptent en son sein certains secrétaires généraux et autres responsables des partis politiques. Selon certains observateurs, disons, on ne peut que redouter la violence. Violation tacite donc de la Constitution et ces derniers plaident donc pour que ces derniers renoncent rapidement à leur fonction précédente. Quelle analyse faites-vous de cette situation? Donc on prend rendez-vous avec vous demain. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.